Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie. Que la Mauricie
se lève! Salut Jonathan!
Salut Catherine!
Bon, Jonathan, là, tu comprends qu'il y a beaucoup de questions en lien avec le point de presse de 17h, parce que normalement, l'heure de 17h est choisie quand on a quand même des choses importantes à annoncer, je me trompe pas. Et là, on dirait qu'on est un peu dans le flou. Avec tous tes contacts, est-ce qu'on s'enligne comment pour le point de presse? Parce que tu comprends qu'une région, autant comme la vôtre à Québec, comme la nôtre ici, Mauricie, centre du Québec, on se dit, c'est-tu là qu'on passe en zone orange? Je pense pas, hein?
Écoute, je sais pas.
Tu sais pas?
Je me permets d'être légèrement optimiste. C'est surprenant de voir à quel point cette opération-là, pour une fois... ça, c'est l'ancien staff politique en moi qui dit pour une fois, parce que moi, je déteste ça quand je vois toutes les informations couler sur la place publique avant que les décideurs fassent leurs annonces. Mais pour une fois, donc, il y a à peu près rien qui a transpiré. Écoute, 5 minutes avant d'entrer en onde, j'ai essayé d'appeler 2-3 très bons contacts. Et quand ils te renvoient la bourde vocale, c'est parce que vraiment, ils veulent pas céder à la pression ou à la tentation d'en donner un peu. Donc, j'ai regardé dans les différents médias, il n'y a rien qui a transpiré. Et la raison pour laquelle ça me rend un peu optimiste, c'est que l'habitude de ce gouvernement-là, c'est de mettre la table pour les nouvelles plus négatives. Bon, ouais. On pourrait considérer que c'est un peu peut-être ce que Christian Dubé a fait hier en disant on se demande si c'est pas le calme avant la tempête, etc. Avec les variants, puis bon, Dr. Arruda qui arrive avec ses requins, puis les dents de la mer, puis ouais donc. Mais en même temps, je trouve que le fait qu'on n'a pas laissé entendre clairement que les régions qui ont des belles courbes, là. Je regardais les graphiques, là. On a des belles courbes en Mauricie,
oui,
en Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches. On paraît bien, là.
Oui.
Chaudière-Appalaches, où je reste, on serait dans le vert, même, Catherine. Si on se fie aux graphiques, on serait carrément dans le vert.
Oui.
Donc, le fait qu'on n'a pas mis la table déjà à ne pas bouger, ça me laisse espérer, vraiment, là, c'est de l'espoir, c'est pas des informations privilégiées, que peut-être que pour les zones rouges qui méritent d'être dans l'orange, il pourrait y avoir des assouplissements, mais pour ce qui est de la grande région de Montréal, il sera trop tôt. Écoute, la pression devient tellement forte. Je pense notamment à toute la question des sports amateurs. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'en parle. Ce matin, c'est Michael Kingsbury, notre champion du ski de bosse, qui publie une lettre ouverte et qui supplie le premier ministre d'agir. Bref, est-ce qu'on va s'en aller carrément dans l'orange version Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Gaspésie, où ce serait certains assouplissements? Écoute, avec la situation là, dans nos régions respectives, je vois mal comment le gouvernement pourrait rester carrément les bras croisés, parce que ils sentent que les gens sont à veille. Ils sont à veille de décrocher quand c'est pas déjà fait.
Ouais, c'est ça, parce que, bon, hier, j'écoutais le point de presse et je comprends que les variants, bon, tu sais, il y a une inquiétude, puis on regarde ça aller. Mais encore là, mis à part, bon, il y a quand même des cas de variants en Abitibi, là, mais le reste, je sais qu'il y en a eu deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que Québec, vous n'avez pas, vous autres, des variants. Nous, on n'en a pas. En avez-vous, vous autres, à Québec?
Écoute, il y a une éclosion dans les écoles, hein? qui serait associée aux variants, mais je ne sais pas si ça rentre dans les 1000 suspectés ou dans les cas confirmés, mais c'est sûr que le variant se promène, mais il reste que le nombre de cas est très, très, très bas. Puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, moi, la question que je me pose, Catherine, c'est combien de fois on doit payer le prix pour la situation à Montréal?
Bien, c'est là où je m'en allais.
Je suis prudent en disant ça parce que je veux pas qu'on oublie que ce soit la Mauricie, que ce soit la capitale nationale, on a eu nos bouts de rough, nous autres, ici. Là. On a eu nos bouts, surtout à Québec, là où ça a été nous c'était nous qui retardions le groupe, si on veut. Là.
Ouais, oui.
Mais il reste que là, à Montréal, quand je dis combien de fois on doit payer le prix, c'est que le reste de la province en ce moment est pas massivement vacciné parce qu'on veut se concentrer sur Montréal. Bon, OK, je comprends, la situation est plus problématique. Donc, on va payer le prix d'être protégé un peu plus tard pour essayer de juguler la crise à Montréal. OK, parfait. Mais là, si en plus la situation est problématique à Montréal, et ce faisant, les autres régions qui vont mieux peuvent pas passer en zone orange, on se trouverait encore une fois à payer le prix pour Montréal, alors que nous autres, nos efforts portent fruit. C'est là, à un moment donné, où on se dit, il y a un principe même carrément fondamental d'équité, là. Tu sais, d'être écouté, là, les gens font des efforts, à un moment donné, il faut le reconnaître aussi. Et je le dis toujours, là, quitte à ce qu'on dise aux gens, échappez pas le ballon, là. Échappez pas le ballon, parce que sinon, on va y retourner en zone rouge.
Non,
je pense qu'il y a moyen de donner leur juste aux gens aussi.
Parce qu'on parlait avec des jeunes dans notre famille qui habitent l'Outaouais, qui nous disaient en fin de semaine, bon, eux, là-bas, sont en zone orange, et depuis ce temps-là, il y a c'est pas une grande augmentation, mais quand même, ils ont vu le nombre de cas augmenter. Alors, c'est juste ça, hein, c'est ça qu'il faut doser. Puis même comme être humain, là, tu te dis, oh, t'as vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en zone orange, on va se réhabituer. Hein, c'est niaiseux, on dirait qu'on s'est déshabitué à vivre un peu plus normalement.
Ben c'est ça. Puis tu sais, on s'est un peu crêpé le chignon, Jérôme et moi, là-dessus la semaine passée. Là, tu sais, je disais en même temps, faut pas se leurrer. La zone orange, à mon sens, ne change pas notre vie.
Non.
Va changer la vie de certaines personnes. Tu sais, je pense aux entrepreneurs, les restaurateurs qui pourraient rouvrir les salles à manger. Eux, ça va changer leur vie. Mais de façon générale, le citoyen normal, si tu gardes un couvre-feu, mais qui est retardé à 21h30, si les salles à manger sont ouvertes, mais uniquement pour les bulles familiales, c'est pas vrai que ça va tout changer
notre
vie. On va avoir l'impression d'être venu comme avant, mais c'est qu'on a besoin d'avancer, tu sais, de faire un petit pas, là, juste dire, oh, regarde, on avance un peu, oui. On voit la lumière au bout du tunnel, il y a de l'espoir. C'est que là, en ce moment, on stagne dans nos libertés, dans notre capacité à reprendre notre vie normale. Ça ferait du bien de juste avancer un peu, de voir qu'il y a de l'espoir.
Oui. Je veux qu'on se parle un peu de violence conjugale. Bon, on voit les drames qui, malheureusement, s'accumulent. Tu voulais parler de ça un peu ce matin. Qu'est-ce qui te chicote,
ouais,
là-dedans?
Ben, écoute, je trouve ça épouvantable avec le double meurtre d'hier, Myriam Dallaire, cette jeune femme, et sa mère, Sylvie Bisson, qui ont été lâchement assassinées. Ça fait 5 cas en quelques semaines seulement, des féminicides, donc des drames épouvantables. Et là, il y a des gens qui vont commencer à se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un lien à faire avec la pandémie? On ne peut pas l'affirmer, Catherine, mais je pense que la réflexion, elle est pertinente, et voici pourquoi.
Ouais.
Quand il y a eu la première vague et que le gouvernement nous parlait de la balance des inconvénients lorsqu'on parlait du retour des élèves à l'école, quand les élèves n'allaient plus à l'école, il y avait le fait que le confinement ne permettait pas d'exposer des problématiques à la maison.
Mm-hmm.
Le jeune qui arrive en classe, que tu vois que ça va pas bien à la maison, qui se confie à des proches et tout ça, il y avait plus cet accès-là. Et on se disait, ça représente un risque de santé publique parce que si ça va pas bien à la maison, ben on peut pas le déceler dans le milieu scolaire. Donc, c'est une des raisons qui a motivé l'insistance à ce qu'on ramène nos jeunes à l'école. Mais on faudrait se poser la question aussi sur les relations conjugales, carrément, là. Le télétravail, l'isolement, le confinement, les tensions dans les foyers. C'est un peu la même chose là, pour une femme qui, par exemple, pourrait normalement, dans son milieu de travail, se confier, aller chercher des ressources, etc. Ben, je pense que la question est pertinente, à savoir le fait d'être confiné, est-ce que ça vient pas augmenter les risques? Je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des comités qui ont rendu des rapports, pas plus tard qu'au mois de décembre dernier, 2 rapports qui ont été déposés à Isabelle Charest, la ministre responsable de la condition féminine. C'est, écoute, pas loin de 200 recommandations qui ont été faites. Et ce que je trouve un peu, pas dommage, mais un fait qui est à souligner, là, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui doit être fait en aval de la violence conjugale. C'est-à-dire, lorsqu'une femme est victime de violence conjugale, comment l'accompagner dans le processus judiciaire? Comment s'assurer que ces femmes-là sont écoutées, etc.? C'est bien, je pense qu'il faut... Il faut se pencher là-dessus. Mais il faudrait parler en amont aussi. Comment prévenir la violence conjugale? Hier, je parlais d'une campagne qui s'adresse aux hommes, qui est diffusée sur les ondes du réseau Cogeco, entre autres, une campagne gouvernementale. C'est important aussi là, de dire aux hommes qu'il y a des ressources, de les sensibiliser, etc. Donc, je pense que le gouvernement doit aussi se pencher sur ce qu'il y a à faire en amont, parce que, écoute, de voir des histoires comme celle-là, 5 drames épouvantables en quelques jours à peine. On apprenait aussi il y a quelques jours que le nombre de plaintes en lien avec des dossiers de violence conjugale a augmenté de 45% en 5 ans. 45%, c'est énorme.
C'est énorme, mais tu sais, puis oui, on termine là-dessus, mais oui, la pandémie, Jonathan, je suis d'accord que... est-ce que ça a fait augmenter le nombre de cas de violence conjugale? Ça se peut, mais par contre, il y a aussi des individus qui sont dangereux de nature, là, parce que de ce que je comprends de la presse de ce matin sur le cas de Sainte-Sophie, là, l'individu en question avait des antécédents de violence. Il avait été emprisonné pendant des mois. Il avait battu un homme avec une barre de métal. Donc, tu sais, on parle de quelqu'un qui, visiblement, n'allait pas bien depuis longtemps. Là. Bon, tu sais, on verra dans l'histoire, mais est-ce que ce genre d'individu-là, est-ce que, tu sais, les publicités qu'on nous projette, j'ai rien contre la publicité et la sensibilisation, là, mais je suis pas sûre que tu rejoins un homme comme ça. Je suis pas sûre que c'est ça.
C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même faire attention, parce que de façon générale, dans toutes les sphères de notre société, la pandémie a le dos très, très large.
Ouais,
tout est mis sur le dos de la pandémie. Les mauvaises performances de Carey Price, on peut mettre ça sur le dos de la pandémie. Là. C'est pas rien.
Il a gagné hier, s'il te plaît.
Oui,
s'il te
plaît. Mais il reste que la question se pose, à savoir est-ce que le contexte en ce moment n'est pas propice à ce que des gens qui peut-être normalement sont capables de contenir leurs émotions, ou qu'il y a des femmes ou des hommes aussi, ça peut toucher des hommes aussi, il ne faut jamais l'oublier, mais qui seraient portés à aller chercher de l'aide. l'aide, mais qui en ce moment ne le font pas parce qu'ils sont chez eux, sont enfermés, puis etc. Donc, je pense que la question mérite d'être posée, mais ça ne doit pas devenir une excuse facile non plus.
OK. Hey, Jonathan, bon show avec Jérôme. On s'en reparle la semaine prochaine.
À tantôt.
Salut. Bye-bye, Jonathan Trudeau avec Jérôme Landry pour Trudeau Landry entre 10h et midi et avec nous les mercredis 7h50.